vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Kéline Couté.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Mini sommet de New York sur la situation sécuritaire en RDC. Ce sommet s'est clôturé jeudi dernier sans communiqué final. Pour Human Rights Watch, ce sommet a échoué à reconnaître clairement le problème principal qui est la poursuite du soutien militaire du Rwanda au M23. Cette ONG internationale estime que tant que le Rwanda continuera à soutenir la rébellion, les civils congolais supporteront les conséquences des combats, quels que soient les nombres de sommets que l'ONU tiendra. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 1er octobre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Muido Muindo Zangi, il est député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique Mouvement Social pour le Renouveau MSR. Honorable Muindo, bonsoir.
Bonsoir.
Martin Fayoulou, député national de l'opposition et coordonnateur du regroupement politique dénommé Force Acquise au Changement. Il est aussi président du parti Engagement pour la Citoyenneté et le Développement. Honorable Fayoulou, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Bouendoua Eluga Essi, il est politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre des Recherches et d'Études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, bonsoir. La réalisation me signale qu'on a perdu le professeur. Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Longa Mboyo de Paris en France. Aussi longtemps que la RDC se présentera toujours en position de faiblesse dans ces sommets, le Rwanda en profitera pour narguer la communauté internationale et asseoir son influence à l'est de notre pays. Espoir Kabamba de Kananga au Kasai Occidental. La tenue de ce sommet montre que seule la RDC croit au retour de la paix à l'est du pays par l'approche diplomatique. Pour moi, il faut essayer une autre approche telle que militaire tout en maintenant celle diplomatique. Merci de nous suivre. Amassissi au Nord Kivu sous la 96.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Avant d'aborder notre thème de ce soir, vous le savez peut-être déjà, Radio Okapi est en deuil. L'un de ses pères fondateurs, Philippe Daïnden, qu'on appelait affectueusement Papa Hirondelle, a tiré sa révérence samedi dernier à Lausanne en Suisse des suites d'une maladie. Philippe Daïnden, un des cofondateurs de la Fondation Hirondelle, avait porté sous les fonts baptismaux Radio Okapi le 25 février 2002. Dialogue entre Congolais de ce soir lui est dédié. Et que son âme repose en paix. Revenons à notre sujet de ce soir. À New York, les participants à la réunion des hauts niveaux sur la situation sécuritaire en RDC ont exprimé leur inquiétude quant à la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Ils condamnent aussi toute forme de soutien extérieur au M23 et aux autres forces négatives opérant en RDC. Par ailleurs, ils s'engagent à aider la RDC dans ses efforts de restaurer la paix et la sécurité dans sa partie est, tout en se penchant sur les propositions faites par les récents sommets de la CIC, de la CIRGL pour amener la paix entre la RDC et le Rwanda ainsi que dans la sous-région des Grands Lacs. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre de New York qui a connu la participation des présidents Joseph Kabila de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Michel Sata de la Zambie. Le condensé de cette réunion avec Hervé Latsou, secrétaire général adjoint en charge des opérations de la paix, qui fait les résumés de cette réunion devant la presse. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Amazani de la radio de l'ONU à New York.
Je crois qu'il y a d'abord le fait que les participants ont donné leurs sentiments sur la situation et ils sont tombés unanimes pour exprimer leur profonde inquiétude devant la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement grave dans l'Est de la République démocratique du Congo et en attribuant la responsabilité aux forces négatives et principalement au mouvement M23. Il y a donc l'expression d'une forte condamnation des activités de ce mouvement ainsi que des autres groupes armés. Et la quasi-totalité des participants ont tenu, dans ce contexte, à condamner toutes les formes de soutien extérieur qui sont apportées à ces forces et à en demander l'arrêt immédiat. Cela, c'est la photographie de la situation, encore une fois, le sentiment qu'elle provoque dans l'esprit de tous les pays participants. L'important maintenant, et toutes les délégations ont insisté là-dessus, c'est de se projeter vers l'avenir. De ce point de vue-là, il y a bien sûr des chantiers de fond, manifestés par l'engagement du gouvernement congolais à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de son pays, et donc pour cela, à renforcer et accélérer la réforme du secteur de la sécurité, mais il y a aussi les efforts des pays de la région, et d'abord de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui, vous le savez, dans le cadre de 3 sommets successifs, a formulé toute une série de propositions. Concrètement, le mécanisme conjoint de vérification qui est déjà en train de se déployer sur le terrain, et puis la force internationale neutre, un concept qui a besoin d'être encore approfondi dans les deux cas, à la fois le mécanisme de vérification et la réflexion sur la force neutre, les Nations Unies sont en appui pour aider à tous ces travaux.
C'était la Hervé Latsou, secrétaire général adjoint en charge des opérations de la paix. Il était, ses propos ont été recueillis par Jean-Pierre Amazani de la radio de l'ONU à New York. Mouindo Nzangi, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du MSR, enfin partie de la majorité. Quelle analyse vous faites du compte-rendu fait par le secrétaire général adjoint en charge des opérations de la paix?
D'abord, je vais présenter mes condoléances à la radio Okapi, comme l'un de ses fondateurs a rendu l'âme aujourd'hui.
Samedi dernier,
excuse-moi. Et je voudrais aussi profiter de ce moment pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées à Goma. Comme vous le savez, ça fait une semaine qu'on vient d'assister à plus de 17 cas d'assassinat dans la ville de Goma par le terrorisme qui est en train de s'organiser là-bas par le M23. Alors, la rencontre de New York.
Le mini-sommet
de New York. Il faut dire d'abord que c'était une bonne chose aujourd'hui que nous puissions parler des rencontres de haut niveau sur la question de l'Est. Cette question qui ne commence pas aujourd'hui, comme vous le savez bien, ça a commencé depuis trop longtemps. Et le Rwanda, avec les mêmes méthodes, changeait seulement d'acteur, a essayé de faire tout pour maintenir son influence sur la partie de l'Est, la partie de Kivu, à travers le RCD, à travers le CNDP, à travers le Mutebuti, à travers aujourd'hui le M23, et qu'aujourd'hui, au niveau international, par la diplomatie qui a été menée au niveau national, il faut qu'on le reconnaisse, on parle de la question de la RDC à l'extérieur. Et dans ces mini-sommets, c'est vrai, on s'attendait à beaucoup de choses. Mais pour la RDC.
Mais malheureusement, il n'y a pas eu de communiqué final.
Pour la RDC, on peut dire qu'ils ont fait leur travail. S'il n'y a pas eu de communiqué final, c'est puisqu'effectivement, la partie rwandaise.
C'est-à-dire quoi, la RDC a fait son travail?
La RDC a fait son travail. La RDC, par la diplomatie, est arrivée à ce qu'il y ait une rencontre de haut sommet, à New York, dans laquelle, effectivement, des hautes autorités est très bien placées ont dû participer. C'est donc, la question a été au cœur des discussions au niveau de New York. La RDC, avec tous ses experts, a présenté la situation telle qu'elle se présente, le M23 soutenu par le Rwanda, et ses discours.
Mais la RDC n'a pas cité nommément le Rwanda.
Ces discours, je ne suis pas encore à ce niveau. Vous savez, il faut dissocier des choses. Il faut dissocier les discours du président de la République au niveau des Nations Unies et le mini-sommet qui ne traitait que de la question de la RDC. Vous avez suivi sur vos antennes Rendes qui a dit lui-même effectivement qu'il fallait dans ses communiqués qu'au site nommément un appui extérieur venant du Rwanda, ce qui a effectivement énervé le président rwandais qui est sorti de la salle puisqu'il ne voulait pas que ça ressorte dans les communiqués qu'il y a un appui extérieur au M23. Donc il faut dire, du côté de la RDC, ils ont fait leur travail, mais de l'autre côté, du côté du Rwanda, ils n'ont pas voulu effectivement qu'ils soient pointés des doigts et ils ont affiché un comportement qu'ils ont toujours affiché d'arrogance au niveau extérieur pour essayer de montrer qu'ils sont super et que la question qui se vit à l'est de la RDC ne dépend pas d'eux alors que forcément il est clair que cette question dépend d'eux. Donc je veux dire seulement que la RDC a fait son travail, mais ça ne dépendait pas que de la volonté de la RDC, ça dépendait aussi de la volonté des partenaires qui étaient en discussion, ce qui fait que effectivement il n'y a pas eu de communiqué final puisqu'il y en a. Alors, quelles sont les retombées de ça? Même s'il n'y a pas eu de communiqué final, j'ai dit madame, la RDC a réussi à faire passer son message. Et la chaise vide du Rwanda, sur le plan diplomatique, ça joue contre le Rwanda.
La RDC a fait passer quel message?
Le message est clair, c'est le Rwanda qui est effectivement à la base de toute la situation telle qu'elle est pour elle.
Mais on n'a pas entendu ça de la bouche des autorités congolaises.
Et non, mais vous auriez voulu qu'elle soit attendue à quel niveau? Je vais vous le dire, par exemple, que tout cela, on voulait effectivement que le président de la République parle clairement à la tribune des Nations Unies, mais effectivement, dans les mini-sommets, on sait effectivement que cette question a été traitée de cette façon-là.
Alors, on va prendre pour vous, honorable Zangui, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu. Alors, le temps que la technique nous apprête le sang, honorable Martin Fayoulou, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président de l'ECID, c'est un parti politique de l'opposition. Vous, comment vous avez vous analysez ce mini-sommet de New York où on a vu le président Paul Kagame, Joseph Kabila de la RDC et le président zambien, mais un sommet qui s'est terminé sans communiqué final?
Mais c'est un échec total. Mais cet échec, si nous, Congolais, nous ne voulons pas l'analyser, c'est très grave. Ce qu'il faut d'abord faire, il faut revisiter l'histoire. Parce que quand vous ne revisitez pas l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui et vous ne pouvez pas, préparer l'avenir. Qui est Kagame? Le pouvoir actuel en place émane de qui? Le pouvoir émane de M. Kagame qui amène l'AFDEL au Congo, ici, et on ne peut pas rester amnésique. On ne peut pas ici ne pas dire ou reconnaître qu'il y a un certain monsieur James Kabarebe qui est aujourd'hui ministre de la Défense du Rwanda, était chef d'état-major ici, et à cette époque il était congolais. Monsieur Kagame dit quoi chez Al Jazeera? Il dit que tous ceux qui sont au pouvoir au Congo sont passés par le Rwanda. Donc c'est lui qui se considère comme patron ici au Congo, et voulez-vous que quand vous le mettez à nu et vous recevez des ordres de lui et qu'il dise quoi? Qu'il soit content de vous? Donc le pouvoir, les problèmes, il faut se rappeler, les pouvoirs afdéliens, c'est les pouvoirs issus de qui? Qui a donné les pouvoirs à qui? Et comment Kagame, qui se considère comme patron, doit se dire que c'est moi qui suis la cause de la guerre au Congo? Si nous, Congolais, nous savions que c'est Kagame, c'est le Rwanda qui a amené l'AFDEL, qui a amené les M23, les CNDP, et pourquoi jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a-t-il pas convoqué le ministre ou l'ambassadeur du Rwanda au Congo? Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas demandé à notre ambassadeur de quitter le Rwanda et de revenir ici pour dire que voilà, nous sommes attaqués par un pays ami et qui ne nous considère pas? Excusez-moi, le problème que nous vivons ici, c'est un problème de haute trahison. Ça veut dire que nous, les Congolais, nous ne pouvons pas accepter que M. Kagame continue à se jouer de nous. M. Kagame ne respecte personne. M. Kagame, même la communauté internationale, M. Kagame ne respecte pas parce que il sait bien la mission qui lui a été donnée. Et il sait comment il a rempli cette mission. Et aujourd'hui, si les Congolais ne veulent pas connaître que le pays est déstructuré par les gens qui sont complices de M. Kagame ici au Congo, c'est que c'est très grave.
Alors vous parlez de quelle mission, honorable Martin Fayoulou?
Mais la mission de balkaniser le Congo, est-ce que c'est un secret? Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Le Congo, doit être balkanisé, le Congo doit être désarticulé, les richesses du Congo doivent être, exploitées par n'importe qui, les Congolais ne sont pas organisés, les Congolais, ils sont assis sur des mines d'or, il y a des ressources naturelles énormes, et il faut gêner ces pays. Alors, tant que nous ne comprendrons pas cela, et je suis malheureux, je suis mal à l'aise de voir qu'il y a des frères et des sœurs congolais qui acceptent la partition de leur pays, des frères et des sœurs congolais qui acceptent pour de l'argent, mais je ne sais pas quel argent, d'accepter que M. Kagame fasse n'importe quoi dans notre pays.
Et donc, pour vous, il fallait rien attendre de ce ministre de New York?
Mais il fallait rien attendre parce qu'il faut bien poser la question. Il faut comprendre d'où vient le problème. Alors, si on ne sait pas d'où vient le problème, vous allez vous asseoir avec M. Kagame. M. Kagame vous dit aujourd'hui que vous n'avez pas exécuté totalement les plans, la stratégie. Et maintenant, comment il est mis à nu? Alors, à cause des gens qui n'ont pas exécuté correctement la stratégie, ils ont paniqué à un certain moment, et maintenant, il vous dit, écoutez, vous allez payer ça très cher.
Alors, mais l'honorable dit que la RDC a fait son travail. Elle a dénoncé, ou ça, pendant ce mini-sommet, la RDC a dénoncé.
Madame, vous dites, que mon collègue est là. J'ai adressé une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Et cette question devait être traitée le 30 mai. Il est député, dès la majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? À ce moment-là, ils m'ont dit que Fayoulou, écoutez, arrêtez parce que on ne peut pas traiter cette question à l'Assemblée nationale. C'est un tabou de prononcer les noms du Rwanda. Et ils ont tout fait pour qu'on traite ça à huis clos. Mais on n'a pas traité. J'ai continué avec l'interpellation. Ils ont tout fait pour mettre cette interpellation dans le frigo. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Si on avait traité cette question le 30 mai, on ne serait pas à ce niveau-là.
Merci, honorable Martin Fayoulou. Professeur Bouendoa Eluga, ici, vous êtes en ligne?
Oui, je suis bien en ligne, madame.
Voilà, je rappelle que vous êtes politologue et professeur à l'IEC Uvira au Sud Kivu. Vous êtes directeur du Centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Comment vous analysez ce mini-sommet de New York?
Je pense que, en ce qui me concerne, ce camouflé, ce pied de nez, cette jactance de M. Kagame démontre tout simplement une sorte de dérèglement, une sorte de faiblesse, de trahison et de duplicité. Je vais dire une faiblesse structurelle, une faiblesse institutionnelle, une faiblesse diplomatique, une faiblesse militaire. Mais à cela s'ajoute aussi une trahison de nos pères, c'est-à-dire de tous ceux qui sont les bien-pensants dans ce pays, au niveau administratif, au niveau idéologique, au niveau économique. Et enfin, la duplicité du chef de l'État. C'est vrai que, je salue d'abord les honorables, et je leur rends grand hommage, Zahidi et Martin Fayoulou, pour dire tout simplement que nous sommes victimes vraiment de la méconnaissance et de l'ignorance de la géographie de notre pays. C'est la géographie de notre pays qui nous dicte notre politique. Et nous nous retrouvons dans des situations telles que, habitant ou bien dictant des politiques trop loin de l'endroit où se situe le conflit, on ne comprend pas la géographie que peut être celle des deux Kivu. C'est-à-dire, des deux Kivu, je ne les appelle pas les deux Kivu, le Kivu est à la limite c'est le lac. Mais nous nous retrouvons au conflit avec le Sud-Soudan actuellement, qui a eu des problèmes, dont les retombées seront bien visibles au Congo en termes de balkanisation. Nous retrouvons avec l'Ouganda qui n'a jamais été stable depuis que Nyerere est intervenu en 1979 là-bas, et dans des cas similaires aux nôtres. Nous nous retrouvons avec le Rwanda où les problèmes sont structurels depuis très longtemps. Nous retrouvons en face avec le Burundi où les problèmes génocidaires s'expliquent, s'exploitent et s'exportent. Nous nous retrouvons avec la Tanzanie, notre plus grand copain, notre plus grand ami, dont nous ignorons tout. Et cette méconnaissance, à la limite, quand on est à Kinshasa, j'ai étudié aussi bien content d'y avoir fait mes études, mais cette ignorance de l'être qui nous amène à des considérations assez souvent abracadabrantesques, assez souvent irréalistes. Parce qu'on ne comprend pas, quand on est ici et vous, on peut se déplacer à côté, mais ce que nous a démontré le président rwandais, qui est pour des gens d'ici une totale humiliation, je ne sais pas comment le qualifierais-je, parce que n'appartenant pas aux sphères du pouvoir, mais j'ai bien compris que les honorables ont parlé de l'arrivée de l'ARDEL, du RCD, du CNDP, du M23, et on comprend très bien vite le fait que tout s'orchestre à partir d'un point, mais j'ai comme l'impression qu'on peut se tromper aussi d'adversaires, parce que nos adversaires sont nombreux, innombrables, situés à des points où on ne peut pas les atteindre aussi facilement, surtout quand on s'éloigne de l'épicentre des problèmes.
Et professeur, qu'est-ce que vous attendiez personnellement de ce mini-sommet de New York?
J'aurais bien voulu que ce fût le président Kabila qui quitta le premier, et non pas vraiment, il nous retrouvait avec une sorte de, j'allais dire, une jactance insupportable, de se retrouver, moi j'habite, je ne sais pas quel endurant d'ailleurs, en 25-50 km, Rwanda, là où je vous parle, mais je trouve que notre président accepte vraiment d'avaler toutes les avalies impossibles, insusceptibles d'être avalées par un président d'un si grand pays. On ne peut pas arriver quand même à ce point où ce soit Kagame qui quitte la table des négociations et que notre président, après Kampala 1 ou 2, je n'en veux pas, président, j'aimerais bien le dire en soi,
alors, professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Moi, c'est Medimou Tombo. Je suis de Goma, dans la province du Nord Kivu. Si, au moins, le président de la RDC n'a pas bien ouvertement dit ce qui se passe à la RDC, c'est que les Rwandais agressent la RDC. Maintenant, où est-ce qu'il dira ça, au lieu de dire ça, tout ça, devant la nation congolaise, devant la nation unie? Maintenant, il a fait ce qu'on appelle la cachette. Au lieu d'avouer ce qui est dans les ventes, c'est qu'il a dévoué ce qui se passe pas ici à l'est de la RDC. Maintenant, de toutes les façons, c'est comme si il n'encourage pas la diplomatie. La diplomatie veut que tout ce qui se passe ici, que ça soit bien clair. Et ça se montre, il y en a des preuves. C'est le Rwanda qui agresse la RDC.
Moi, réaction, professeur.
Ma réaction, vraiment, je salue très bien mon compatriote. Vous savez, moi, j'habite à côté du Rwanda et du Burundi. Je vais très souvent en Tanzanie et en Uganda. Moi, ce que je trouve totalement insupportable, inadmissible, intolérable, c'est l'idée que nous soyons là, comme vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana, on a arrêté un ministre ou bien des petits trucs, un peu d'escarmouche, on a fermé les frontières. Moi j'habite à côté du Rwanda et du Burundi, on n'a jamais osé fermer les frontières pour que nous sachions qui est congolais, qui n'est pas nos agresseurs. Il faut qu'on les poursuive. J'étais en Tanzanie en 1979, je faisais ma thèse, je me rappelle, il n'y a rien dit, je vais vraiment le ressasser. Un serpent quitte son trou pour vous attaquer dans votre maison, vous n'avez pas d'alternative que de chasser de votre maison. Il arrive dans son trou, vous le poursuivez dans le trou. Les gens du M23 viennent d'un trou de quelque part, qu'on les poursuive, que ce soit au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie ou ailleurs, on les poursuit, on fait la guerre, on mène la guerre. Si on la perd, eh bien, on fait des négociations. Et non pas se retrouver dans des situations un peu humiliantes. Vraiment, pour un grand pays comme le Congo, je pense qu'on a droit à autre chose que de nous retrouver en train d'aller de sommet en sommet, de mini-sommet en négociation, en conciliabule, en aparté. Je trouve quand même que c'est trop pour le grand peuple congolais.
Merci, professeur. Honorable Zangui, l'honorable Martin Fayoulou a parlé d'échec de ce sommet. Il y a aussi l'ONG internationale Human Rights Watch qui parle aussi d'échec. Pour cette ONG, ce sommet a échoué à reconnaître clairement les problèmes principaux qui est la poursuite du soutien militaire du Rwanda au M23.
Oui, mais lorsque le président rwandais se retire, vous auriez voulu que les gens qui restent, alors que l'acteur principal qui était le Rwanda, qui devrait à principe être sommé, n'accepte plus de participer à la... Donc c'était inconcevable qu'on puisse avoir un communiqué où on le dit, puisque le Rwanda n'a pas voulu être là. Je voudrais revenir à ce qui a été dit par rapport à l'histoire. C'est vrai que je partage les réflexions qui sont en train d'être menées par les gens. Je suis intervenu il y a 3 jours à Radio Okapi pour demander qu'on ferme au moins à partir des 18h la frontière de Goma-Gisenyi, puisque on a l'impression que ceux qui tuent les gens à Goma maintenant, c'est des gens qui viennent de l'autre côté de Gisenyi, qui est l'état-major général des M23. J'ai demandé que le ministre de l'Intérieur puisse au moins, déjà à partir de 18h, commencer à fermer. C'est impossible, c'est inconcevable que on tue les gens, on sait que le cercle d'opération, c'est Gisenyi, mais on laisse la frontière ouverte 24 sur 24, c'est quand même inconcevable. Mais tout ça, c'est de l'ensemble de réflexions qu'on doit tous mettre ensemble pour mettre à disposition de ceux qui font la guerre. Puisque j'ai l'impression que on met d'un côté ceux qui doivent se battre et de l'autre côté ceux qui doivent critiquer ce qui s'est fait. On est à guerre. Et la guerre, moi je suis élu de Goma, je suis de Kivu, je suis de Kivu. C'est une guerre d'une conquête de terre. Tout le pays est attaqué. C'est une partie du pays qu'on est en train de vouloir amputer au pays. Nous tous, nous devons mener la guerre. Nous ne devons pas laisser de côté ceux qui mènent la guerre et de l'autre côté des spectateurs, puisque ça nous concerne nous tous. C'est par des idées, par des réflexions, par des innovations que nous devons tous mener nos contributions pour que nous puissions faire la guerre ensemble. Alors, on nous a parlé de l'histoire de Kabarebe qui est arrivé, qui a été chef d'état-major ici. Je le reconnais. Mais aussi arrêter l'histoire à ce niveau-là, ce n'est pas être, c'est être injuste, puisqu'on sait que Kabarebe est arrivé ici et que le président Kabila à cette époque, Kabila Mouzé, l'a chassé. Ne pas dire ça aussi, c'est quand même ne pas être honnête. Il l'a chassé et il a payé de ça. Le fait de l'avoir chassé, et le Rwanda qui voulait occuper non seulement la partie de l'Est, qui occupait à partir de Kinshasa, il a payé de ça.
Donc, et l'attitude du président rwandais, le fait de quitter la salle là-bas, est-ce que ce n'est pas une façon de se dire que la RDC négocie en position de faiblesse?
C'est vrai, ne pas le reconnaître aussi, c'est être malhonnête. Vous savez, en principe, on ne plaire pas quand on a une arme. Quand vous êtes attaqué, la première chose, vous devez riposter. Et c'est à cause de l'échec militaire que nous avons eu, qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à des situations où on se sent même humilié sur le plan international. Puisqu'en fait, la force de Kagame, c'est quoi? C'est de dire, il s'agit même si je le fais marcher comment, il ne vaut pas trouver des solutions militaires à mes bouteilles dehors. Mais moi, je l'ai déjà dit à ce micro, à cette émission, que je crois que nous ne sommes pas incapables de faire la guerre. Je sais que nous sommes capables de faire la guerre. Et moi, je crois à mon intérieur qu'il n'y a que la solution. Les gens qui sont habités à manier les armes, je vais vous dire, madame, ils n'écoutent pas un autre langage. Même les femmes dans les foyers qui sont habitées à être battues, comme elles n'avaient pas encore battu, elles ne comprennent pas qu'il y a un problème. Donc, les gens qui ont manié les armes, Kagame, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, avec tous les Rwandais, avec tous ces gens que vous trouvez là, Makenga par exemple, si vous lisez son histoire, c'est un monsieur qui, toute sa vie, il n'a fait que manier les armes. Donc, ils n'attendront pas un autre langage que le langage des armes. Ça s'est déjà démontré à Bukavu, où ils ont entendu le langage des armes. Aujourd'hui, Bukavu, même si on a encore des problèmes, c'est quand même dégagé. Et à Goma, il faudra la bataille finale, elle se tiendra à Goma ou à Gisenyi.
Alors, on va prendre pour vous, honorable Zangi, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
C'était dit Ndilonge de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Pourquoi le gouvernement congolais se penche beaucoup sur les options diplomatiques et politiques improductives, oubliant que la trêve actuelle profite aux agresseurs de s'organiser pour lui rendre une tâche difficile lors de la reprise des combats? Qui aime la paix prépare la guerre, dit-on.
Honorable.
Oui, je suis d'avis avec lui, ce n'est que ce que j'ai dit. À ce moment-là.
Et donc, c'est vrai que le gouvernement congolais se penche sur des options diplomatiques et politiques improductives.
Bon, je ne suis pas arrivé ici pour parler au nom du gouvernement. Je suis député national.
Vous êtes de la majorité.
Je suis député national de la majorité, oui, parce que vous savez, les gens savent beaucoup lier un député de la majorité au gouvernement.
Mais c'est vous qui êtes aux affaires.
Le député, il est député.
De la majorité.
De la majorité, effectivement,
et
de la majorité pour défendre le peuple, mais il est élu du côté de ceux qui ont obtenu le pouvoir à l'Assemblée. Donc, il a aussi des propositions à faire en tant que autre député. Je vais dire ceci. De mon avis, en tant que député du Nord Kivu, je ne crois pas à la solution diplomatique. Mais je sais qu'au moment où on a entamé cette diplomatie, nous étions à genoux. Moi, j'étais à Goma. Je suis arrivé, moi, ici, sur la ligne de front, je vous l'ai dit. Mais la situation n'était pas bonne. Il faut ne pas les reconnaître aussi. J'ai vu des militaires avec les effets sur les têtes, avec les femmes qui sont en train de tirer dans le parc.
Merci, honorable, on va vous redonner.
Et on n'avait plus le moral de résister. Il fallait absolument qu'on arrête cette situation-là.
Merci, honorable. On va vous redonner la parole, honorable Martin Fayoulou. Comment vous réagissez à la déclaration de Human Rights Watch qui dit, par exemple, que tant que le Rwanda continuera à soutenir la rébellion, les civils congolais supporteront les conséquences des combats, quels que soient les nombres de sommets que l'ONU tiendra?
Mais tout à fait. Human Rights a totalement raison. tant qu'on n'aura pas d'armée, on ne fera rien. Pourquoi on ne peut pas avoir l'armée? Une armée efficace. Tout l'argent qu'on dépense dans ces pays. Monsieur Kabila est là depuis 11 ans. Pourquoi il n'y a pas d'armée? À San City, il y avait des résolutions. On s'est mis d'accord. Qu'est-ce qu'on devait faire? Pourquoi il n'y a pas d'armée? La question qu'on doit se poser. Donc, c'est-à-dire que j'organise un pays qui soit un pays très faible pour qu'il soit attaqué à tout moment.
L'armée est en train d'être réformée.
Mais ça va être réformé jusqu'à quand? Jusque quand? Mais il n'y a pas d'armée. Mais Zangui dit qu'il a demandé au pouvoir de fermer les frontières à partir de 18h. Quelle était la réponse? Zangui dit que nous devons tous mener la guerre. Il est membre de la majorité, il est au Parlement. Mais l'institution Assemblée nationale, que fait-elle pour mener la guerre? Moi, je suis président d'un parti politique bien implanté à Goma. J'ai des militants, j'ai des membres à Goma qui travaillent. Et je suis ici, à Kinshasa, je suis congolais et je travaille pour mon pays. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, c'est mon pays et je dois travailler. Alors, quand je demande à ce qu'on parle clairement à l'institution Assemblée nationale. Pourquoi on refuse? Qu'est-ce que cela veut dire? Ces gens, comme il dit, ces gens ne sont pas capables de faire la guerre. On dit aux Congolais que nous ne sommes pas capables de faire la guerre. Mais c'est un affront. 70 millions, 73 millions d'habitants, on est incapable de construire une armée, on est incapable de se défendre. Mais M. Kabila a prêté serment. L'article 74 de la Constitution, il dit qu'il doit défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et voilà que cette intégrité territoriale est mise à mal. Et on ne dit rien. On ne fait absolument rien. Et il y a des gens qui sont là, qui poursuivent l'argent. J'insiste sur l'argent. J'insiste parce que les Congolais, on les a paupérisés à souhait. Pour qu'après, parce qu'ils se disent que mais qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Vous ne pouvez rien, mais c'est pas l'argent. Votre pays, vous vendez votre pays. Le sol, c'est le don sacré que Dieu a donné à l'homme. Alors, moi, je ne comprends pas. Et que les gens se fassent distraire pour des bêtises, pour l'argent, pendant ce temps-là, le pays est en train d'être vendu parce que nous avons des complices. C'est pour cela. Je soutiens, nous au FAC, Force Acquise au Changement, nous soutenons cette mise en accusation de M. Kabila. C'est très grave. Je ne sais pas si les Congolais comprennent. Si les Congolais comprennent, vous traquez les opposants, vous traquez les gens qui n'ont rien à faire avec le pays, qui n'ont que leurs paroles, leurs verbes pour s'exprimer. Et vous les traquez. Or, les choses sérieuses se passent ailleurs.
Alors on prend pour vous, honorable Fayulu, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Yves Lubuli, j'habite Lubumbashi de la province du Katanga. Le ministre ne peut être considéré comme un échec pour deux raisons. La première est l'attention particulière que l'ONU a accordée à la situation de guerre à l'est de notre pays. Ici, le Congolais doit reconnaître qu'il est facile de détruire que de reconstruire. La seconde raison est l'unanimité de plus en plus manifeste sur l'implication du Rwanda. Cela indique que le temps des accusations est révolu, contrairement à l'opinion qui attendait voir la RDC dénoncer le Rwanda du haut de la tribune de l'ONU.
Réaction, honorable Mafayou.
Écoutez, l'ONU a 20 000 hommes ici au Congo depuis longtemps. L'attention particulière a été accordée depuis très longtemps et l'ONU sait exactement ce qui se passe. Et elle, l'ONU, sait à la lettre ce qui se passe. Alors, sinon, on va aussi accuser cette ONU de complicité. Donc, je crois que mon frère, c'est vrai qu'il voit la situation sur le terrain, parce qu'il y a nos frères et sœurs qui meurent tous les jours. On ne peut pas tenir de tels propos et c'est malheureux. L'ONU est au Congo depuis quand? Depuis très longtemps. Mon collègue a dit que la situation du Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça a été accentué, exacerbé à quel moment? Donc, j'ai dit, nous devons tout faire pour aider ces pays. Nous n'avons qu'un pays, le Congo, et pas un autre.
Merci, honorable Martin Fayulu, professeur Bouendoua. Maintenant que le ministre sommet de New York a échoué, comme diraient certains observateurs, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour arriver à trouver une solution à cette situation de l'Est?
Je disais l'autre jour, madame, à Radio Okapi, quand vous avez eu l'honneur, la joie et le privilège de m'interroger, je disais que Belinda est Rwanda. Ce n'est pas que je sois belliciste, ni va en guerre, Mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse préserver aussi une certaine idée d'une entité et d'une identité qu'on appelle congolaise. Tous les sommets auxquels on va sont des sommets mal conçus, mal conduits, mal conduits, parce que simplement nous y allons presque pieds et poings liés. La seule chose à faire quand on est agressé, ce n'est pas deux. Si on n'a pas les moyens de défendre la République, notre République, eh ben, nous nous soumettons. Mais si les questions, vraiment, on n'a pas à attendre les sommets internationaux, les conférences internationales, les régionales et tout, si nous avons les moyens de défendre les limites extrêmes de notre pays, c'est de le défendre avec l'arme au pied, et c'est-à-dire être prêt à mourir pour la patrie. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que ce soit nous qui nous mettions toujours en train d'attendre que on sache que des capitales de pays étrangers arment des gens contre nous et que nous, nous soyons en train d'aller de sommet en sommet. Je trouve que c'est quand même lâche et traître de devoir le faire. Je pense que le président, qui a longtemps vécu en Tanzanie, moi j'aimerais bien le rappeler, il a vécu longtemps en Tanzanie, il connaît la figure de Nyerere. En 1979, la Tanzanie est attaquée par l'Ouganda dans un territoire, une province qu'on appelle la Kagera. Nyerere n'a pas hésité, contre tout l'avis de l'OEA, à dire, eh ben, d'abord, c'est un problème qui relève de la Tanzanie, nous boutons d'abord l'ennemi dehors, c'est-à-dire M23 d'abord dehors. Alors, s'il est hébergé par le Rwanda ou l'Ouganda, nous serons, nous ferons la guerre contre l'Ouganda, le Rwanda. Eh bien, là, maintenant, on se retrouve face à des armées. Et je pense qu'on n'a pas à leur beauté de sommet en conciliabule, en basse messe, en haute messe. Moi, je trouve que c'est totalement irréaliste, totalement inconcevable.
Alors, professeur, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. C'est le cas de maître Jean-Paul Lumbulumbu de Goma, au Nord Kivu. Et même s'il y aurait eu un communiqué final au ministre sommet de New York, dès lors que la paix n'est pas rétablie à Rutshuru, Masisi, Walikale et Beni, et surtout dans la ville de Goma, où la sécurité a atteint le paroxysme de l'intolérable, tous les efforts diplomatiques fournis par le gouvernement nous semblent inefficaces. Et Human Rights Watch n'a pas tort de penser que ce sommet, et à l'instar de ceux de la CIRGL, est un échec. David Niabaguerre de Kisangani dans la province orientale dit ceci: le président Kagame avait saboté Kampala 2 et pour montrer sa force, il l'a fait à New York. Est-ce que ça ne dit rien aux Congolais? Le président Kabila était là où il devait citer le Rwanda comme agresseur, mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas à ce sommet de résoudre la rébellion au Congo, c'est aux Congolais, au président Kabila, d'y trouver des solutions adéquates. Docteur Justin Marie Gouba et Sosa, le dossier du M23 ne saura pas prendre la vitesse de croisière si la RDC ne se montre pas téméraire sous le front militaire. Pourquoi le gouvernement congolais négocie toujours en position de faiblesse? Professeur, comment vous réagissez à toutes les réactions de ces auditeurs qui nous écrivent de partout?
Donc, je pense que je n'ai pas un iota à ajouter à ce qu'ils disent, tout simplement parce qu'ils traduisent la réalité. Nous vivons, nous, ici. Je vous assure que là, dans la petite ville d'Ouvira où je suis, on est en face de Bujumbura, on connaît les problèmes de tous les gens. Mais on aimerait bien quand même avoir l'honneur d'être un pays, un grand pays, et que vraiment s'il nous arrive quelque chose, qu'on se défende. Parce que tous les États se défendent. Si on a un gouvernement qui ne comprend pas que quand il y a une rébellion qui arrive, il faut qu'on la mate. C'est une rébellion, moi j'ai fait des études de droit politique, on m'a dit une rébellion, évidemment on ne peut pas prendre les armes contre la République, et je pense que la première faute, et j'étais encore professeur à l'université de Goma quand c'est arrivé, la première faute qu'on a admise, c'est d'avoir pu permettre à l'Abdel d'entrer dans une structure, d'avoir vraiment attaqué la République, et on n'a jamais jugé ces gens-là. Après, Abdel, RDC, CNDP, M23, M24, M25, MX, Y, on arrivera. On n'a pas à prendre les armes contre la République. On s'expose directement au monopole de la violence physique.
Merci.
On s'oppose à...
Merci, professeur. Merci, professeur. Excusez-moi de vous arracher la parole. Il nous reste moins de 6 minutes pour mettre fin à cette émission. Honorable Zang, je vous repose la même question. Échec de ce sommet, ce mini-sommet de New York, c'était quand même un sommet à très haut niveau. Qu'est-ce qu'il faudra attendre ou bien quelle est l'autre solution qu'on pourrait avoir pour mettre fin à la situation, à cette rébellion du M23?
Bon, moi, je dois dire d'abord sincèrement que je ne crois pas que toutes ces négociations c'était pour rien. Ça a démontré quelque chose de fondamental. C'est le Rwanda qui est la clé de ce qui se passe. Maintenant que tout le monde est au courant, nous avons le droit, nous avons toute la justification d'attaquer Kigali. Nous ne sommes plus liés à ce que l'extérieur puisse nous dire que nous faisons quelque chose d'injuste.
Mais c'était, pourquoi vous ne le faites
c'était,
pas?
C'était nécessaire. Je vous dis, madame, c'était nécessaire que cela puisse se faire. C'était nécessaire que tout le monde puisse voir. Vous savez, depuis même la rébellion du RCD, la communauté internationale n'avait jamais condamné les Rwandais qui a agressé, qui a occupé même à cette époque-là. Aujourd'hui, au moins, il y a une condamnation de l'extérieur. Ça nous met à une position diplomatique très favorable, mais nous ne pouvons pas espérer à ce que nous puissions avoir de l'extérieur une solution. Vous avez
donc
vu
la solution viendra du Congo, des Congolais.
La solution viendra du Congo. Mais puisque le Congo n'est pas au monde seul, effectivement, il faut que la solution qui viendra du Congo soit une solution acceptée par l'extérieur. Vous savez, peut-être que je ne suis pas du gouvernement, je ne peux pas le dire, mais je suis informé quand même que le gouvernement aussi profite de ce moment pour essayer de réorganiser les choses, et peut-être que, à un certain moment, nos attentes, qui est ma demande, nous allons assister aussi au gouvernement congolais qui doit se défendre. Puisque moi, je crois que nous devons nous défendre. Nous ne devons pas aussi continuer à parler au micro, à Radio Okapi, partout. Merci. Et ne pas, nous devons nous défendre. C'est-à-dire, le ça doit couler, notre ça aussi doit couler.
Merci, honorable Zangui, honorable Martin Fayoulou, la solution.
Mais la solution, nous sommes députés. Mais nous devons discuter à l'Assemblée nationale, engageons un débat pour défendre notre pays. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'on sort 357 soldats rwandais du Rutshuru pendant que les troupes congolaises sont en train de se battre avec les M23 venus du Rwanda et que le gouvernement ne dise rien? Le gouvernement le savait parce que le ministre de la Défense l'a dit, que ces gens-là sont sortis des communs accords et que d'autres disent que non, c'est une exfiltration. Mais alors, est-ce que nous pouvons comprendre cela? Ce que nous devons faire, c'est notre pays. Nous devons nous asseoir autour d'une table et trouver une solution adéquate. Quelle est la solution? Défendre le pays, je peux le défendre. Mais si on ne veut pas que je parle de cette question à l'Assemblée nationale, que fait l'Assemblée nationale? Discuter de quoi? Si le pays est attaqué, le pays est en guerre, que faisons-nous aujourd'hui? Est-ce que s'il y a une question et une seule à traiter dans cette assemblée, ce sera laquelle? Pas la sécurité à l'Est, pas l'intégrité territoriale du pays.
Conclusion.
Donc, nous sommes aussi complices. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'étais surpris. Surpris d'attendre M. Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, dire que la démocratisation, c'est lui. Il a oublié le 24 avril 90. Dire, parler des infrastructures, au lieu de parler des choses sensées, des choses sur lesquelles les Congolais l'attendent. Et voilà, je suis choqué.
Merci.
Pour mon pays. On est en train de vendre mon pays.
Merci, honorable
Fayoulou. Et au vu au-dessus de tous les Congolais.
Merci, honorable Fayoulou. Professeur, un mot en guise de conclusion.
Je vais conclure en disant que, en rappelant tout simplement bien paraphrasant, que la géographie d'une entité lui dicte sa politique, son économie et sa diplomatie, autant que l'histoire d'un pays lui dicte sa culture. L'histoire de notre pays doit comprendre que nous n'avons qu'un allié, la Tanzanie à prendre pour que nous puissions être en mesure de nous battre contre les Rwandais et contre tout ce qui
commence du coup de l'extérieur. Merci professeur. Un mot, on aurait besoin
de dire. Le mot, c'est de dire que nous, comme tous les peuples, nous devons savoir que nous sommes en guerre. Nous devons savoir que la guerre, il n'y a personne qui va la mener seul. Tous, nous devons mener cette guerre d'une manière ou d'une autre.
Merci.
Et le Rwanda ne nous battra pas.
Merci, honorable Zangui. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, Samuel Kachak, Alain Hung, sous la supervision de Pelé Kipelamondo, qui nous ont aidés à préparer et réaliser cette émission. La technique était assurée par Jean-Claude Siala. Au micro, Kelly Nkouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.